Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour son amour et pour ce temps qu'on a pu passer devant sa face pour le louer, pour lui rendre honneur et gloire. Nous allons prier pour remettre ces instants, pour demander à Dieu de régner, de diriger ces moments. Seigneur, nous tournons vers toi au moment, Seigneur, de vouloir entendre, comprendre, recevoir ta parole. Nous nous tournons vers toi. Seigneur, tu vois combien les réalités que nous abordons sont complexes, combien elles sont élevées au-dessus de notre compréhension humaine, au-dessus de nos capacités humaines. Et nous voulons, Seigneur, te demander de nous faire grâce et de nous aider par ton esprit à les comprendre. Seigneur, nous te demandons que ton esprit nous aide à comprendre ta parole. Nous demandons que ton esprit nous aide à mieux connaître ton cœur. Nous demandons que ton esprit nous aide à mieux nous approcher de toi. Nous te demandons vraiment ta grâce pour ces moments. Viens vraiment conduire ces instants. Viens parler à nos cœurs. Viens nous édifier, Seigneur. Et que vraiment, tu puisses toi-même étendre ta main sur nous dans ces moments, Seigneur. Nous savons que c'est ta parole qui est la vérité. Nous savons que c'est ta parole qui sanctifie. C'est ta parole qui est une lampe sur notre sentier. C'est ta parole qui nous reprend. C'est ta parole qui est un marteau qui brise le roc. C'est ta parole qui est une épée, Seigneur. Alors que ta parole, justement, fasse cette œuvre en nous par ton esprit. Nous te le demandons ce matin. Amen. Voilà, alors nous allons continuer l'enseignement entamé les dernières semaines. Alors il y a des personnes qui peut-être n'étaient pas présentes, donc on va rapidement résumer ce qu'on a dit et ensuite on va continuer. Je rappelle qu'étant donné la particularité de ce thème, n'hésitez pas, si vous avez après le culte des questions, des choses qui vous embêtent, qui vous chipotent, qui ne sont pas claires, pour lesquelles vous avez besoin d'éclairage, n'hésitez pas à le demander. Donc, je rappelle qu'on a expliqué, on a parlé de la discipline dans l'Église et on a parlé de toutes les situations dans lesquelles la Bible nous enseigne que l'Église doit réagir. Alors, rappelez-vous qu'on a donné tout un ensemble d'exemples de situations qui imposent, ou la Bible nous impose, d'avoir une réaction. On a parlé notamment, par exemple, de la situation d'un péché continu, non repentant, une personne qui vit dans un péché continu et qui refuse de se repentir. On a parlé de certains types de conflits dans l'Église, on a parlé de certains types d'attitudes, attitudes de division, attitudes d'affrontement les uns envers les autres. Et donc on a parlé de ces situations tout en montrant dès le début que la Bible nous parle de la discipline dans l'Église. Il y a plein de versets, il y a multitude de versets. Ce n'est pas une doctrine secondaire, ce n'est pas une doctrine parenthèse de la Bible, c'est vraiment une doctrine claire et établie dans les Écritures. Dès lors, l'Église doit recevoir cette doctrine et doit la vivre. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu compliqué parce que les Églises l'appliquent de moins en moins, la discipline dans l'Église, parce qu'on n'est plus dans une société où on est conscient de ces réalités et on est dans une mentalité très particulière. Mais si nous voulons être l'Église de Jésus, nous devons nous conformer à sa parole. Et donc, on a vu des versets bibliques qui parlent de l'établissement de la discipline dans l'Église. Et puis, on a parlé longuement de la réalité selon laquelle un chrétien doit avoir une église locale et que la discipline s'exerce dans cette église locale. Dans une église locale, nous sommes tous redevables les uns par rapport aux autres. Et donc, nous devons être d'accord que nos frères aient un regard sur notre vie, sur notre témoignage, notre marche avec Dieu. Alors rappelez-vous qu'on a bien expliqué la discipline dans l'Église, c'est certainement pas un contrôle sur la vie des gens, c'est pas du sectarisme, c'est pas un flicage des uns et des autres, c'est pas du légalisme, c'est pas du pharisaïsme, mais on a parlé du fait que c'est une veille, on veille les uns sur les autres. On se protège les uns les autres, on s'évite les uns les autres de déraper, on se reprend les uns les autres, afin que dans l'Église, la gloire puisse toujours revenir à Dieu. Et nous avions fini la dernière fois en parlant de la fonction du berger qui implique aussi la discipline, qui implique le soin, qui implique d'aimer, qui implique d'accompagner, mais qui implique aussi la discipline. Alors, on avait parlé de ce bâton qui permet de faire reculer les ennemis, qui permet de rattraper les brebis qui s'égarent. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des buts de la discipline dans l'Église. En fait, c'est des choses qu'on a déjà dit les dernières fois. Hein, donc, on va juste redire des choses qu'on a dit, mais je pense que c'est important qu'au niveau des buts, ce soit vraiment aussi clair pour tout le monde. Donc, le soin pastoral dans l'Église se fait aussi par la discipline. La houlette du berger lui permet, oui, de guider le troupeau, de reprendre près de lui une brebis qui est malade, qui est en difficulté, mais également de frapper les animaux qui voudraient s'en prendre au troupeau, de frapper tout ce qui pourrait mettre le troupeau en danger. Alors les animaux, ça peut être une fausse doctrine qui rentre dans l'assemblée. Les animaux, ça peut être un péché qui rentre dans l'assemblée. Et donc le berger, les bergers doivent être agressifs par rapport à tout ce qui peut mettre en danger l'intégrité spirituelle du peuple de Dieu. Il est important de préciser, malgré tout, que la fonction pastorale implique avant tout de prendre soin. Et ça, c'est important de le rappeler quand on parle de la discipline dans l'Église. C'est vraiment de dire que le berger doit d'abord prendre soin. Le bâton, il est utilisé dans les situations vraiment où il n'y a pas le choix. Mais la priorité, c'est le soin. La priorité, c'est d'aider. La priorité, c'est de soutenir. Et donc, en cas de souci spirituel dans une église locale, quelle qu'elle soit, quel que soit le souci spirituel que nous avons, que ce soit une lutte avec un péché, que ce soit des péchés secrets avec lesquels nous sommes en difficulté, que ce soit des doutes que nous avons dans notre foi, que ce soit, à un moment donné, des attirances qu'on a pour le monde qui reviennent tout à coup. Je suis converti depuis des années, et puis un jour je me réveille, tiens, je suis attiré par le monde. Que ce soit des problèmes relationnels, problèmes de couple, problèmes de famille, problèmes de divers ordres, le réflexe du chrétien doit d'abord être de demander de l'aide. Alors j'insiste beaucoup là-dessus. C'est aussi quelque chose qui se perd dans nos églises. Savez-vous qu'à l'époque de la Réforme, les réformateurs ont pensé à instituer 3 sacrements. Finalement, ils n'en ont gardé que 2. Ceux qui sont institués par la Bible, le baptême et la Sainte Cène. Mais à un moment donné, ils ont eu en tête de rajouter le 3e sacrement qu'on appelle la cure d'âme. Alors, ce n'est pas comme certains se l'imaginent, curer comme on cure des tuyaux, mais c'est finalement le reste de l'accompagnement spirituel qu'il y avait dans l'Église catholique, dans lequel les croyants avaient le réflexe de demander de l'aide, avaient le réflexe d'être vus par leur conducteur spirituel pour être aidés. Alors finalement, ils ne l'ont pas gardé, parce qu'effectivement, ce n'est pas institué comme tel dans la Bible, mais je pense que c'est très important que nous gardions ces éléments-là en tête. La discipline dans l'Église, elle intervient dans des cas particuliers dans lesquels quelqu'un va vivre dans un péché non repentant, par exemple, dans lequel quelqu'un va vivre dans une situation honteuse et ne veut pas se laisser toucher par la grâce de Dieu. Mais avant tout, nous devons demander de l'aide. Le berger ne sort son bâton que quand il ne sait rien faire d'autre. Avant ça, son travail, c'est d'aider. Quelles que soient les situations devant lesquelles nous sommes, quels que soient les soucis que nous avons, nous devons d'abord pouvoir demander de l'aide. Et pour ça, il faut se considérer comme une brebis. Alors, il y a peu de chrétiens qui se considèrent comme des brebis. Parce que la brebis, quand on la prend, elle accepte. Mais bon, il faut se considérer comme une brebis pour accepter de demander de l'aide. Je sais bien que ça paraît un peu ridicule de dire ça, mais c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que la discipline dans l'Église, elle intervient pour sauver les chrétiens qui s'égarent. Et qui sont les chrétiens qui s'égarent? C'est potentiellement chacun de nous. Potentiellement chacun de nous, parce que nous avons une nature pécheresse et que nous vivons dans un monde qui s'oppose à Dieu. Nous avons des ennemis spirituels qui s'attaquent à nous, un ennemi qui est en nous, la chair, et des ennemis à l'extérieur de nous, le monde, les pensées du monde et tout ça. Ce qui fait que le chrétien est assailli, sans s'en rendre compte, de toutes des forces qui l'empêchent d'avancer avec Dieu. En fait, on est en guerre spirituelle, on est attaqué spirituellement. Alors heureusement, on ne le sent pas tous les jours, le trois quarts du temps, on vit bien. Et donc, dans cette guerre, Dieu prévoit que nous puissions être des soldats qui, lorsqu'ils sont blessés, peuvent demander de l'aide. peut venir montrer leurs blessures et dire j'ai besoin d'aide. Et vous voyez dans l'Ancien Testament, on voit à plusieurs reprises qu'il y a énormément de textes là-dessus sur différents types de maladies que les gens avaient et par rapport auxquels ils devaient aller demander de l'aide au prêtre. Le lépreux, par exemple. Si tu es lépreux, va voir le prêtre. Si tu es dans telle situation, va voir le prêtre. Va voir quelqu'un qui peut t'aider, va voir quelqu'un qui peut te soutenir. Vous savez, nous sommes dans une réalité de vie qui est ce qu'elle est. C'est que on est tous là pour, on est là pour, on essaye tant bien que mal de garder notre vie, notre masque social. Je parle, je dis pas qu'on est des hypocrites. Je dis qu'on a un masque social. Et derrière ça, on peut tous avoir besoin d'aide. Dans nos églises, on n'a pas idée de toutes les choses qui peuvent se passer. Parfois, de chrétiens qui au fond de leur cœur, vraiment, vivent des moments où ils doutent de la présence de Dieu. Ils sont chrétiens et ils se réveillent un matin, ils disent « je sais pas, je doute, je ne sais pas ce qui m'arrive ». Des chrétiens, parfois qu'on arrivait à douter de l'existence de Dieu. Ils sont chrétiens, ils sont baptisés, ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils se réveillent un matin, je ne sais pas, je suis tourmenté. Dans nos églises aussi, parfois des chrétiens mariés, depuis des années, marié, bien heureux, et puis un jour, un monsieur qui sent des attirances pour un homme. Il est chrétien, né de nouveau, baptisé, marié, mais il ne sait pas ce qui lui arrive. Nous vivons ça dans nos églises. Le réflexe doit être de demander de l'aide, de se montrer, parce que c'est déjà ça qui peut nous sauver, qui peut sauver notre âme. Parce qu'évidemment, si je me retrouve seul face à ma difficulté, je suis démuni. Mais si je demande de l'aide, je peux en arriver à ce que ça ne glisse pas jusqu'à une situation où on va devoir sortir le bâton. Donc c'est très important que nous ayons cette mentalité-là, cette mentalité de demander de l'aide à nos frères, à nos sœurs, et de pouvoir nous montrer en cas de difficulté. Et les exemples sont légion. Il y a plein d'exemples de situations où on peut avoir besoin de demander de l'aide. La toute première fois que je suis venu à Jumet, qui se souvient du thème de la prédication ? Myriam, toi tu t'en souviens ? Tu ne t'en souviens pas ? Oh, de toi, je suis déçu. Tous les autres, je m'en fiche, mais toi, ça me déçoit. C'était sur le monoxyde de carbone. Ah, voilà. Ben voilà, Myriam, Patrick vient de monter au-dessus de toi dans le. Quelle est la particularité du monoxyde de carbone ? Je suis en difficulté, c'est inodore, c'est incolore, les gens meurent parfois sans s'en rendre compte. Le monoxyde de carbone, la seule façon en général d'en être sauvé, c'est d'avoir soit un détecteur, soit une personne qui nous alerte et qui nous dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a quelque chose. » Si je suis seul dans une pièce où il y a du monoxyde de carbone, qu'il n'y a personne autour de moi, il est inévitable qu'à un moment donné, je vais somnoler, m'endormir et puis voilà. Donc nous devons éviter de nous enfermer. Nous devons éviter de nous retrouver seuls face à nos situations. Nous devons demander l'aide de nos frères, parce que ce sont nos frères qui vont nous sauver. Ce sont nos frères qui vont nous sauver des difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. La responsabilité de veiller sur le troupeau, elle est rappelée dans Actes 20, 28 à 32. Veillez donc sur vous-même, il parle aux anciens d'Éphèse, veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec des larmes. Vous voyez la responsabilité de veiller sur le troupeau, prendre soin du troupeau, défendre le troupeau, je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. » Donc, ils sont invités à défendre le troupeau contre les loups. Et puis, regardez comment l'apôtre Paul finit. « Soyez donc vigilants, rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un. » L'apôtre Paul ne se contentait pas de prêcher, d'enseigner, mais il conseillait un à un. Il aidait les gens un à un. Donc vous voyez que c'est institué par la Bible aussi, le soin individuel des âmes. Et donc, ça nous montre bien que, comme berger, il faut s'occuper du groupe, mais il faut aussi s'occuper des individus. Donc protéger le troupeau des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, des fausses prophéties, ça existe aussi. Hein. Parfois, dans certaines églises, on invite un prédicateur qui donne une prophétie, et puis des chrétiens se retrouvent complètement perturbés par la prophétie, complètement retournés, et ils sont en difficulté. Alors il faut réagir aussi, pour éviter que ça n'égare les gens, que ça n'atteigne leur foi. Protéger l'Église du péché, des fonctionnements dangereux, des conflits, des abus spirituels aussi, de toutes les tendances spirituelles douteuses qu'il peut y avoir, il faut protéger le troupeau. Le manque de discipline est réprimandé. Dans la Bible, on trouve des versets, Apocalypse 2 par exemple, où Jésus reproche à une église de ne pas exercer la discipline. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, donc fausse doctrine, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. J'ai contre toi que tu as des gens qui enseignent des fausses doctrines et tu ne fais rien et tu ne dis rien. Donc Jésus reproche à l'Église de ne pas exercer la discipline. Donc lorsque l'Église n'exerce pas la discipline, elle est réprimandée par Jésus. Elle fait mal quand elle n'exerce pas la discipline. Verset 20, « Mais j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » C'était une fausse doctrine, mais en plus une fausse doctrine qui amenait les gens à avoir un comportement particulier. Et c'était, à l'époque, par exemple, les Nicolaïtes, c'était vraiment la débauche totale. Hein. C'était vraiment plus aucune crainte de Dieu, plus rien du tout. Et l'Église ne disait rien, l'Église ne faisait rien. Cela est réprimandé par Jésus. Les buts de la discipline dans l'Église. Donc on va les faire tous aujourd'hui. Quitte même à ce que j'aille un peu plus vite sur certaines choses, mais on va quand même s'attarder sur pourquoi est-ce qu'il faut la discipline dans l'Église. On va rappeler des choses déjà dites. Premièrement, il faut la discipline dans l'Église pour favoriser la repentance du pécheur. 1 Corinthiens 5, 4 à 5, vous connaissez ce passage. 1 Corinthiens 5, c'est un texte important. Il y a Matthieu 18, important. 1 Corinthiens 5, c'est important. Vous lirez 1 Corinthiens 5. C'est donc le cas d'un homme qui vivait en relation incestueuse avec sa belle-mère. D'accord ? Il faut savoir que dans la Bible, la belle-mère est égale à la mère. C'est la même chose. Donc ça veut dire que quelqu'un qui serait en couple avec sa belle-mère, bibliquement parlant, c'est comme s'il était avec sa mère. Belle-mère, la femme de son père, on se comprend. Donc, voilà. Et donc, le livre de Deutéronome de Lévitique dit clairement que c'est interdit. Et il y avait un homme qui vivait dans cette situation-là. Et voici ce que Paul dit par rapport à cette situation-là. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul invite donc la discipline de l'Église à s'exercer par rapport à ce monsieur-là. C'était une situation publique. Tout le monde le savait, tout le monde le voyait, tout le monde était au courant. Et l'apôtre dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc Paul dit qu'il faut la discipline de l'Église afin que celui-là puisse se repentir et être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, clairement, il est en train de dire que la discipline dans l'Église a pour but d'éviter que des gens ne soient retrouvés dans une situation où ils ne pourront pas être sauvés au jour du Seigneur Jésus. Ce chrétien vit dans un péché et l'Église est invitée, et en fait l'apôtre le réécrit parce qu'il s'étonne qu'il n'ait rien fait jusqu'ici. L'Église est invitée à le livrer à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Alors c'est une expression qui est forte. Hein. Il faut n'allez pas parler de ça sur la RTBF, hein, sinon on va dire que vous êtes des dingues. Hein. Alors livré à Satan, il y a beaucoup d'explications sur ce verset, on pourrait en parler des heures. Mais comme vous n'avez pas le temps, que vous n'êtes pas disponible, voilà, on va le faire en rapide. Livré à Satan. Selon la plupart des commentateurs, et c'est certain qu'il y a de ça, c'est excommunié. Quand on excommunie quelqu'un, lorsqu'on fait sortir quelqu'un de la communion de l'Église, on considère qu'on le livre à Satan. Pourquoi ? Il faut expliquer. Vous savez que dans la Bible, il n'existe pas de milieu entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Tout homme est soit de l'un des royaumes, soit de l'autre. Même mon collègue le plus sympa, s'il n'est pas à Christ, bibliquement parlant, il est sous la coupe de Satan. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est un homme habité par des démons, mais ça veut dire que, par exemple, Satan, quelle est la première caractéristique de l'œuvre de Satan ? C'est l'incrédulité. Satan rend les hommes incrédules. Donc, quand je suis un incrédule, quand je ne crois pas, quand je ne suis pas à Christ, quand je ne suis pas né de nouveau, je suis sous la coupe de Satan, sous la coupe de l'incrédulité, sous la coupe de l'ignorance de Dieu, sous la coupe de la révolte vis-à-vis de Dieu. Et il n'existe pas de bord entre les deux. Vous connaissez ce verset où Jésus dit à l'apôtre Paul, « Je t'ai appelé pour que tu fasses passer les hommes de la puissance de Satan à Dieu ». Hein, donc, c'est ça, se convertir, c'est quoi ? Venir à Christ, c'est passer de la puissance de Satan à Dieu. On passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et donc, quand on dit qu'on excommunie quelqu'un, qu'on livre quelqu'un à Satan, ça signifie qu'on vient poser un acte dans lequel on renvoie la personne de l'Église, du troupeau de Jésus, et que donc, elle est comme livrée à Satan. Livrée au royaume des ténèbres en ce qu'elle n'est plus considérée comme étant membre du peuple de Dieu. On met la personne en dehors de l'assemblée des saints. On met la personne en dehors de l'assemblée de Dieu et en cela, on la livre à Satan. Donc, il faut se rendre compte que quand on dit qu'on excommunie, c'est un acte extrêmement grave. Je parlerai tout à la prochaine fois d'un verset qui peut nous faire trembler sur ce sujet-là, mais qui est dans la Bible. Mais la personne est donc considérée comme étant sortie de l'Assemblée des saints à cause de son comportement. L'excommunication fait sortir de l'Église, de la maison de Dieu, de la famille de Christ, et elle rejette le croyant dans un monde où Satan règne en maître. L'apôtre Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan, qu'un tel homme soit excommunié. L'apôtre Paul explique cependant que cette excommunication vise la mortification, la destruction de la chair, la destruction des passions, la destruction du vieil homme, la destruction de l'habitude mondaine qu'il avait, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour la destruction de ce comportement malsain, honteux qu'il avait, afin qu'il puisse se repentir et qu'il soit sauvé au jour de Jésus-Christ. Le but, c'est qu'il soit sauvé en se repentant et qu'il puisse être sauvé au jour de Jésus-Christ. Donc, il doit être excommunié afin de pouvoir se repentir, afin de pouvoir prendre conscience de la gravité de sa faute, afin de pouvoir revenir à Jésus et pouvoir être sauvé au jour de Jésus. Vous avez un autre verset qu'on a déjà évoqué, 1 Timothée 1,20, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc vous avez un autre verset qui va dans le même sens. Hein, donc là, c'était pour une autre situation, c'est une situation de blasphème. Ils ont été excommuniés pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer pour qu'ils puissent se rendre compte de leurs fautes et de leurs péchés. J'ouvre une parenthèse qui n'est pas une parenthèse parce que le texte est quand même très très clair. Le texte nous montre clairement que sans repentance, cet homme aurait été privé du salut. C'est clair. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Cet homme aurait été privé du salut. Ne pensons pas que Dieu rigole quand il parle de certaines choses. La discipline dans l'Église, elle vise aussi à éviter que des chrétiens, ou en tout cas des gens qui pensent l'être, ne se retrouvent dans des situations où, au son de la trompette, ils sont obligés de dire « Je suis désolé, mais je ne te connais pas. Je suis désolé, mais... Tu... » C'est ça aussi la discipline dans l'Église. Hein. C'est éviter que des gens se retrouvent dans de telles situations. Livrer à Satan, c'est une parenthèse, on y reviendra. Mais vous avez vu que livrer à Satan est un acte ecclésial, apostolique, et qu'il implique plusieurs personnes. Alors premièrement, chose importante, l'excommunication livrée à Satan implique le Seigneur Jésus lui-même. Il dit « Au nom du Seigneur Jésus, avec la puissance de notre Seigneur Jésus. » Donc, qu'un tel homme soit livré au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est avec l'autorité de Jésus lui-même que l'Église est invitée à poser cet acte. L'acte implique également l'Église locale, vous et mon esprit étant assemblés. Ça veut dire que l'Église entière était associée à l'acte. Il y avait l'apôtre, c'est la troisième personne, il y avait l'Église, mais il y avait le Seigneur Jésus lui-même. Je parlais du verset qui peut nous faire trembler à ce sujet-là. C'est un verset que souvent on tire de son contexte. Le verset qui dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ». Ce verset concerne la discipline dans l'Église. Matthieu 18, ce verset signifie que lorsque l'Église décide sur terre une décision comme celle-là, cette décision est entérinée au ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Et vous voyez que l'apôtre, qui est l'autorité spirituelle, il ordonne et il préside à cette décision. Donc on verra que c'est ça la structure de fonctionnement dans l'Église, c'est que dans les cas de discipline grave, l'ensemble de l'Église doit être appelé à prendre position, mais que donc ce sont les responsables qui vont présider à la mise en œuvre de cette décision. Gagner notre frère est l'objectif. La discipline dans l'Église vise à favoriser la repentance du pécheur. Rappelez-vous dans Matthieu 18, le verset « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » S'il t'écoute, s'il prend conscience de sa faute, s'il se rend compte de ce qu'il a fait de mal, tu l'as gagné. Parce que tu l'as ramené dans la maison de Jésus. Tu l'as ramené dans le peuple de Dieu. Le but est donc de gagner notre frère qui s'est égaré. Le but est de le ramener dans la bergerie de Christ et de lui épargner un sort désastreux. Voyez le verset « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Voilà le but. Sauver quelqu'un de la mort, sauver quelqu'un de son éloignement. La repentance et le changement de vie du croyant est le but premier de la discipline dans l'Église. Le premier but, c'est d'aider quelqu'un qui en a besoin de se repentir, à se repentir. Bonne nouvelle pour ce jeune, pour ce monsieur, il s'est en effet repenti. L'Église a exercé la discipline, l'Église a été très sévère, l'Église a eu beaucoup d'autorité, mais il s'est repenti. Vous pourrez lire dans 2 Corinthiens 2, 5 à 10, il dit ceci, « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, voyez, par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. L'apôtre dit que cet homme s'est repenti et il invite l'Église à avoir une attitude d'accueil par rapport à lui. Maintenant qu'il s'est repenti, maintenant qu'il a, ça a fait tilt dans sa tête, qu'il s'est rendu compte de son péché, maintenant, aimez-le, accueillez-le, consolez-le. Cet homme s'est repenti et l'apôtre Paul invite l'Église à le pardonner, à le consoler et à faire acte de charité envers lui. L'apôtre invite également l'Église à ne pas l'attrister excessivement. Ce qui veut dire que la discipline dans l'Église ne doit pas produire une tristesse excessive, une honte excessive. Quand la personne a compris sa faute, quand la personne se repent, elle doit être réadmise, elle doit être aimée, elle doit être consolée, elle doit être soutenue, elle doit être encouragée. Le but, c'est la repentance. Le but, ce n'est pas l'humiliation. Le but, ce n'est pas le rejet pour le rejet. Le but, c'est que la pièce tombe, que quelqu'un se dise, mais oh, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Dire, je dois revenir à Jésus. Je suis en train de m'égarer. Si vous prenez ce frère, je ne dis plus Patrick parce que c'est lui le président aujourd'hui, donc il a pouvoir sur moi. Je ne donne pas d'autres exemples. Je donne un autre nom. Il n'y a pas de Victor ici ? Victor, donc le fameux Victor qui est devenu voyant, médium, à Gauzé, juste en face de l'hôpital Vézal. Il est chrétien, il est devenu voyant. Et il gagne des sous. Il s'est racheté une nouvelle voiture, il a une Ferrari, et ça marche pour lui. Le dimanche, il est au culte, il n'y a pas de souci. Il prend la Sainte-Seine, tout va bien, mais la semaine, après sa journée, il est voyant à Gauzé. L'Église lui dit, frère, cette situation est inadmissible. Nous ne pouvons pas avoir au milieu de nous quelqu'un qui pratique l'occultisme. C'est impossible. Tu dois te repentir. Oh non, faites ce que vous voulez, moi j'ai la belle vie, laissez-moi tranquille. Écoute, si ça continue, nous allons présenter le cas en Église. Ah ouais, faites ce que vous voulez. C'est présenté en Église locale. L'Assemblée générale se réunit et dit « Ce frère vit dans un péché honteux qui déshonore la parole de Dieu, il doit être excommunié. » L'Église va lui dire, l'Église va le voir ou lui envoyer une lettre et lui dit « Tu es excommunié selon la parole de Dieu. » De toute façon, je m'en fiche, je la brûle votre lettre. Et puis un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, et un jour au fond de son lit, il se met à pleurer, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis médium, et j'ai dit que je te connais, j'ai dit que je t'aime, j'ai dit que j'aime Jésus, et je suis médium, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais je suis dingue, mais c'est pas possible. Il téléphone, Gino, je dois te parler. Gino, lui-même la nuit, vous pouvez l'appeler, Gino, ça ne le dérange pas. Et Myriam aussi, elle aime bien quand le téléphone sonne la nuit, comme ça la réveille un peu. Gino, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis dingue, Gino. C'est pas grave, viens, demain on va se voir à l'église. Et puis il parle avec Gino. Et puis l'assemblée se réunit de nouveau pour dire, voilà, notre frère, il a dérapé, mais il s'est repenti. Alors maintenant, aimons-le, entourons-le et faisons-lui du bien. Et l'histoire est réglée. Il s'est repenti, il est revenu à Jésus. Ça, c'est le but de la discipline dans l'église. Comme je l'ai dit, l'hypothèse, en réalité biblique, c'est que quelqu'un qui est né de nouveau, à un moment donné, il reviendra. On ne peut pas être né de nouveau et tourner le dos pour toujours à Jésus. À un moment donné, si la semence de Dieu est en toi, si Dieu a fait de toi une nouvelle créature, c'est ça la nouvelle naissance. Tu es une nouvelle créature, tu as une nouvelle identité. Même si tu dérapes, à un moment donné, tu vas revenir. Et donc, le frère est réadmis et il est accepté dans la présence de Dieu. Donc la réadmission dans l'Église est le signe matériel du pardon de Christ lui-même. Lorsque l'Église réadmet Victor, eh bien elle lui dit publiquement, Jésus lui-même t'a pardonné. C'est fini, tu peux aller à autre chose, tu peux revenir dans l'Église. La repentance sincère est la marque du croyant. On l'a dit la dernière fois, le croyant se repent et abandonne son péché. C'est ça un croyant. C'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. Le non-croyant aime son péché, il vit dedans. Le croyant n'aime pas son péché, il se repent et il l'abandonne. L'injonction de reprendre notre frère, vous voyez aussi que c'était déjà dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu reprendras ton prochain. » Donc le but également de la discipline dans l'Église, c'est toujours la même idée, c'est de sauver les chrétiens de l'égarement. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, versets 22 et 23, dit ceci, « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Ayez une pitié mêlée de crainte, on peut traduire, jusqu'en ayant crainte que votre tunique soit souillée par eux. C'est terrible, hein, la Bible. Qu'est-ce que le texte dit ? Le texte dit qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qu'il faut reprendre, il y a ceux qu'il faut sauver, et il y a ceux dont il faut avoir pitié. Ceux qu'il faut reprendre, c'est ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont dans le peuple de Dieu, mais qui ils sont un peu à gauche, à droite, ils ne savent plus trop, ils contestent, ils n'acceptent pas la parole. Ils sont là et il faut les reprendre. Il faut dire, écoute frère, ça ne va pas, ça c'est pas biblique, ça ne glorifie pas Dieu, c'est ceux qu'il faut reprendre. Ceux qui, avec un mot, un conseil, une exhortation, vont comprendre et vont revenir. Ensuite, il y a ceux qu'il faut sauver. Ceux qu'il faut sauver, c'est comme Victor. Victor, il faut le sauver parce qu'il est en train d'aller à sa perte. Victor, il peut se dire chrétien, il peut avoir une carte de baptême. S'il est médium et que Jésus revient aujourd'hui, il ne part pas. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Il ne faut pas croire que oui, mais il a été baptisé. Ben oui, d'accord. Mais Jésus ne va pas dire, bon, ben c'est pas grave. Non. Sauver, il faut le sauver. Donc il faut le sauver, il faut l'arracher du feu. Et puis le texte dit, ceux dont il faut avoir pitié. C'est dur, hein. Mais ce serait quoi, ce dont il faut avoir pitié? C'est Victor qui ne se repent pas. Victor qui ne se repent pas, qui à un moment donné continue dans sa voie. Je lui parle, je lui téléphone, il fait rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On peut juste avoir pitié de Victor, qui comprend. On a juste mal au cœur, Seigneur Victor. Souviens-toi de Victor, Seigneur, touche Victor. Mais le texte dit, haïssant même jusqu'à la souillure de la tunique, veillant même à ce que votre tunique ne soit pas souillée. Je vais peut-être vous choquer. Mais si Victor ne se repent pas et qu'il vient sonner chez moi parce qu'il n'a pas de toi, je ne vais pas l'accueillir. Si Victor passe sa journée à invoquer des démons et qu'il veut venir dormir chez moi, je lui dirai, désolé Victor, mais pas ici. Je ne peux pas souiller mon âme à cause des péchés de Victor. Lorsque Victor fait le médium, et qui donne des réponses aux gens. S'il a beaucoup d'argent, c'est que ça marche. Et si ça marche, c'est qu'il y a des démons impliqués quelque part. Alors Victor, si tu ne te repens pas, je ne peux pas souiller ma tunique avec ton péché. Je ne peux pas souiller mon âme avec ton péché. Donc, celui qui ne se repent pas, celui qui ne veut pas écouter, celui qui persévère dans sa faute, craignez qu'il ne souille votre tunique. Craignez qu'il ne vous entraîne, soit par son exemple, soit par son influence dans le mal. C'est très dur. Non, pas forcément. Quand vous avez un gars à Anderlecht qui sort son arme et qui commence à tirer sur tout le monde, on l'attrape, on arrive à l'attraper, on lui met les menottes et il dit « S'il vous plaît, j'aimerais bien faire mon petit barbecue la semaine prochaine, vous me libérez ?»« Ben oui !» Vous allez dire ça ? C'est la même chose. La société va se protéger de celui qui la met en danger. Mais c'est la même chose. Si Victor vit dans son péché, les autres aussi doivent se protéger de son péché. C'est sûr que la différence, c'est que celui qui tire à Anderlecht, tout le monde voit que c'est dangereux. Mais Victor, qui est médium, on a l'impression que... Bah, mais c'est tout aussi dangereux, spirituellement parlant. Savez-vous que si vous êtes au courant que Victor est médium, et que vous prenez la Sainte Cène avec lui, vous participez à son péché devant Dieu. Si Victor, parce qu'ici, on découpe les morceaux de pain, mais si je vous prends un pain et que vous prenez tous une miche, vous êtes spirituellement, enfin c'est la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que le pain complet symbolise ça. Vous êtes le même corps, vous êtes spirituellement liés les uns aux autres. Vous savez que Victor est médium, devant Dieu, vous êtes tous impliqués dans sa faute, dans son péché. Donc vous voyez que l'Église de Jésus doit parfois aussi se protéger de certains comportements et veiller à sa santé. Pousser les croyants à changer de vie. Autre but, je vais finir par là. Patrick, si tu veux bien, je peux ? Est-ce que je peux dépasser de 5 minutes, Patrick ? Merci, Patrick. On s'entend bien tous les deux. Le but de la discipline dans l'Église, c'est de préserver la pureté de l'Église également. Je voudrais vraiment rapidement m'attarder sur ça. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de vin fait lever toute la pâte ? Ça, c'est un verset à retenir pour la discipline dans l'Église. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire que l'Église doit aussi exercer la discipline pour éviter que le péché, de façon sournoise, vienne contaminer l'ensemble de l'Église. De façon sournoise, de façon malicieuse, de façon insidieuse, le péché accepté, toléré, peut contaminer l'ensemble de l'Église. Et donc le but de la discipline dans l'Église, c'est de préserver la pureté de l'Église, c'est d'éviter que Satan ne vienne mettre sa semence dans le troupeau de Christ, que Satan ne vienne déposer quelque chose qui petit à petit va se développer et va commencer à devenir une normalité au sein du peuple de Dieu. Donc parfois, il faut réagir ferme pour éviter que le péché de l'un ne devienne la normalité pour les autres. Il faut éviter la contamination par le péché. Je vais encore vous choquer, mais si jamais quelqu'un un jour se met en tête, si quelqu'un, je sais pas, homme ou femme, dit ben moi j'ai décidé, moi à partir de maintenant j'aurai deux femmes, j'aurai deux hommes, et qui vient le dimanche à l'église avec ses deux femmes, qui prend la Sainte Cène, qu'on lui fait la bise en disant rien. Même les gens les plus amoureux de leur conjoint auront des tentations. Même l'homme le plus amoureux de sa femme, Satan lui dira, « Mais t'as vu le frère, là ? Il est venu à l'église, prend la Sainte Cène, il sert même un petit peu. Fais-toi plaisir. Hein. » Le péché toléré dans l'église peut se répandre par la normalisation à laquelle il conduit. Parce que tout le monde va commencer à se dire, bah, c'est pas si grave, c'est pas si terrible. Et petit à petit, ça commence à devenir la normalité. Notre autre camarade, là, c'est plus Victor, comment qu'on l'avait appelé celui-là ? On va au vide. Hubert, il n'y a pas d'Hubert ici. Le fameux Hubert dont on a parlé, qui est chrétien, qui vient à l'église le dimanche, et qu'on retrouve alcoolisé à la place de la digue, en train de se battre. Si Hubert, samedi soir, il est alcoolisé à la place de la digue, et dimanche matin, il prend la Sainte Cène avec moi, ben moi, je vais me dire, bon, pourquoi pas faire plaisir, hein, je peux une petite crique, et une autre petite crique, une autre petite crique, et puis voilà. Donc, petit à petit, de façon insidieuse, le péché peut devenir une norme dans le peuple de Dieu. Quand on ne fait rien, quand on ne dit rien. Alors je sais bien que vous êtes là, si vous dites, mais moi c'est différent, vous savez, moi, rien ne peut m'éloigner, mais c'est très insidieux. C'est une contamination insidieuse. Ôtez le méchant du milieu de vous. Le péché est une mauvaise semence qui peut produire des ronces amères dans l'Église. Le péché comme une gangrène, comme une infection généralisée, comme on appelle une septicémie, infection généralisée. Le péché comme une septicémie qui peut atteindre tout le corps et le faire mourir. La discipline de l'Église, elle permet de faire un stop. Le camarade qui vient avec ses deux femmes ou la femme qui vient avec ses deux hommes au culte, quand à un moment donné, publiquement, on va dire « ça ne va pas », même ceux qui avaient des petites... vont se dire, bon, on se calme. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, les humains, on ne fonctionne pas comme ça, quand on aime, quand on est... En réalité, on fonctionne comme ça. N'est-ce pas qu'il y a plein de gens qui freinent quand la police est dans la rue? Pourtant, on est tous des bons citoyens. Mais quand la police est là, on se dit, bon, la discipline de l'Église, elle vient aussi pour ça, pour des actes extérieurs où tout le monde va se dire, oh. Là, je suis en train de déraper, ça peut m'amener loin. Elle protège chacun. Le péché peut se répandre par l'exemple, mais voilà, on peut prendre l'exemple. Le péché peut se reprendre par la tolérance progressive. Petit à petit, on trouve ça un peu normal. On dit c'est pas si grave que ça, on dit c'est pas la fin du monde. Et puis un beau matin, tout le monde est dedans, par le message de relâchement qu'il délivre. Donc le péché peut inciter au relâchement spirituel. On peut tous se relâcher. Le péché met donc en danger la personne concernée, mais aussi l'ensemble du corps. Le péché de l'un concerne l'ensemble du corps. La discipline dans l'Église rappelle à tous les croyants que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et elle évite l'infection du corps. Elle invite l'infection. Parfois, c'est vraiment comme une gangrène qui monte. Il faut couper pour éviter que ça ne contamine le tout. Je termine par ce verset. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. On voit cet appel à fortifier les mains qui languissent. Vous parlez tout à l'heure de demander de l'aide. Fortifier les mains qui languissent, les genoux fléchis, affaiblis. Rechercher la sanctification et veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et veiller aussi, ça c'est important, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons et ne produise du trouble. Un peu de péché, un peu d'amertume, un peu de conflit, un peu de haine, un peu de... Et à un moment donné, tout est infecté. Il faut veiller, il faut avoir le regard sur nous, évidemment, sur nos frères, pour que l'Église reste en bonne santé et qu'elle puisse continuer à vivre et à glorifier Dieu. Amen.